Nous continuons donc notre série sur le Saint-Esprit ce mois-ci. Et donc j'aimerais lire avec vous un texte pour introduire. C'est un texte qui se trouve dans Romains 12. Ce sera notre texte ce matin. Romains 12, les versets 6 à 8. Romains 12, 6 à 8, je crois que vous étudiez ça aussi le vendredi d'ailleurs. Nous avons des dons différents, des dons spirituels, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Nous allons parler des dons spirituels ce matin, mais avant de parler des dons spirituels, il faut parler du don, le don du Saint-Esprit. C'est la première chose dans la vie chrétienne, quand on ouvre son cœur au Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. Et, chose extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, il ne vient pas les mains vides. Voilà. Quand il vient dans notre vie, il vient avec des cadeaux, finalement, avec des dons. Et ça, c'est les dons de l'Esprit. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va parler des dons de l'Esprit. On va aussi revenir sur le fruit de l'Esprit. Alors, expliquer la différence un peu. Le fruit de l'Esprit, c'est ceux qui prouve que nous sommes chrétiens. Voilà. Quand quelqu'un est chrétien, on doit voir le fruit de l'Esprit. Et donc, on va relire ce verset qu'on parcourt depuis le début du mois, Galates 5, 2. Ça, c'est quelque chose qui est pour tous les chrétiens. Nous devrions tous porter ces fruits, montrer ces fruits. C'est comme un arbre. Si vous avez un cerisier, il se reconnaît à son fruit, ce sont des cerises, ce ne sont pas des pommes, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes un chrétien, vous avez le fruit de l'Esprit qui est, regardez, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour qui se manifeste dans notre vie. L'amour, la joie, de la joie, on y reviendra, la paix, être des hommes et des femmes de paix, la patience. C'est plus dur pour certains que pour d'autres à le faire sortir, ce fruit-là, mais voilà, c'est un fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. La bonté, la bienveillance, on va y revenir dans les dons aussi. La foi, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Donc aujourd'hui, on a rajouté deux points, la bienveillance et la fidélité ou la foi, selon la traduction, voilà. Alors maintenant, les dons de l'Esprit. Eh bien, on va lire un texte, un autre texte, 1 Pierre 4:10, qui est un texte clé sur ce sujet. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme de bons intendants ou dispensateurs des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. On va découper la seconde partie du verset. Mettez chacun. Voilà. Donc chacun est concerné par les dons spirituels. Personne ne peut dire, moi j'ai aucun don. Chacun. Mettez chacun, on va aller au bout du texte, au service des autres, le don que vous avez reçu. Donc, ça veut dire que chacun a au moins un don. Ok ? Chacun a au moins un don. Minimum. Dans la parabole des talents, c'était un peu ça aussi, il y avait 1, 5, 10. Certains ont plus que 1. Mettez chacun au service des autres. Voilà. Le but des dons spirituels, c'est de servir. Servir les autres. Servir dans l'Église. Donc si je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, j'ai au moins un don spirituel. C'est un don, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas quelque chose que j'ai gagné, c'est Dieu qui me l'a accordé. Et ce don, je dois le mettre en pratique, je dois l'utiliser au service de l'Église, au service des autres. Donc, la question qu'on va se poser ce matin, on reviendra après sur les dons de Romains 12, comment savoir quel est mon don ? Comment savoir quels sont mes dons ? Sachant qu'on peut en avoir plusieurs. Eh bien, déjà, relisez ce texte, 1 Pierre 4, verset 10, hein, qui vous dit très clairement que, voilà, vous avez au moins un don. Relisez-le et acceptez-le par la foi. Dire, Seigneur, j'ai un don. Je ne le connais peut-être pas encore parce que je suis jeune converti, je suis jeune dans la foi, je ne sais pas quel est mon don ou quels sont mes dons. Mais Seigneur, tu as dit que j'ai au moins un don. Voilà. Seigneur, je t'en remercie et je veux maintenant le connaître, Seigneur. Alors, pour le connaître, eh bien, vous pouvez relire les listes des dons. Il y a Romains 12, 1 Corinthiens, c'est facile, hein. Romains 12, 1 Corinthiens 12, déjà. Après, vous avez Éphésiens 4 et 1 Pierre 4. Par exemple, dans 1 Pierre 4, regardez, il mentionne deux dons, ici, le verset 11, 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, don de la parole, d'enseigner, ou même d'évangéliser d'ailleurs, hein, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, quand on parle de la part du Seigneur, que ce soit pour enseigner, pour évangéliser, eh bien on doit le faire vraiment avec la conviction que c'est les paroles de Dieu qu'on annonce. Donc il y a une autorité, il y a une puissance, une conviction. Si quelqu'un accomplit un service, voilà, là il y a plein de services dans l'Église, hein, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Voilà. Servir avec la force que Dieu donne. Seigneur, tu me donnes la force, la capacité, l'habileté pour servir aussi. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Donc on revient, hein, à cette idée que tout c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire personnelle, c'est pour la gloire de Dieu. Quand on sert, quand on parle. Alors, quand vous parcourez ces dons, vous verrez dans ces listes qu'il y a des dons miraculeux. Je pense que la plupart des dons miraculeux ont cessé. Ils étaient au début de l'Église, ils étaient pour démarrer l'Église. Mais il y a tous les autres dons qui subsistent, les dons d'enseignement, les dons de service, et qui sont nombreux. On en verra juste quelques-uns ce matin. Et donc, une fois que vous avez lu tout cela, vous avez prié, peut-être vous pouvez faire un petit test de tempérament, un test de personnalité. Déjà, vous connaissez. Hein. Souvent, quand je prépare des personnes à devenir membres de l'Église et à servir, je leur pose cette question. Je leur dis, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui écoute ? Déjà. Parce que c'est ça, hein, souvent. Hein. On est plutôt quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui écoute. Alors, certains, c'est les deux. Ils me disent, mais moi, je fais les deux. C'est très bien, parce que c'est vrai que la Bible dit, celui qui écoute parlera toujours. C'est l'idéal. C'est à la fois écouter, savoir parler. Mais c'est vrai que c'est évident que certains, ils ont plus tendance à parler et d'autres plus tendance à écouter. On connaît tous, hein, ce genre de personnalité. Donc, en fonction de ça, déjà, ça donne une idée. Pourquoi ? Bien parce que c'est évident qu'en fonction de cette tendance, vous serez amené à pratiquer certaines activités plus facilement que d'autres, et ça peut orienter vers les dons que vous pourriez avoir. Je reviens sur le mot... sur le fait de parler ou d'écouter. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui aime parler, c'est fort probable que vous pouvez avoir le don d'enseigner ou d'évangéliser. Parce qu'il est évident que pour enseigner, il faut parler. Hein. Si vous êtes très, très timoré, très timide, c'est pas évident d'enseigner. Évangéliser, c'est pareil. Hein. Si vous allez évangéliser dans la rue... Et si vous êtes quelqu'un qui écoute plutôt que quelqu'un qui parle, vous allez vous faire manger par la personne. On le vit des fois. Vous rencontrez des personnes qui viennent, qui parlent avec vous, mais elles veulent vous enseigner à vous. Elles veulent vous faire croire à ce qu'elle croit. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui parle, c'est perdu, hein, là, vous allez être dévoré par la personne. Donc, donne une indication. De même, deuxième question, maintenant, est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse plutôt aux personnes ou aux activités ? Ça, c'est deux tendances. Alors, on est plutôt porté vers le relationnel, avec les personnes, on s'intéresse aux personnes, on aime écouter, parler, ou on est plutôt porté vers les activités, vers le travail, vers les projets. Ah, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vraiment avoir le côté relationnel et qui s'intéresse aux personnes, il est fort probable qu'elle ait un don de relation d'aide, pour travailler avec les gens, n'est-ce pas ? Pour les écouter, pour les conseiller, etc. Être aussi dans l'évangélisation d'ailleurs, hein, parce que c'est très relationnel. Alors que quelqu'un qui est plutôt dans les activités, dans les projets, ça sera peut-être quelqu'un qui sera plutôt avec un don de service, n'est-ce pas, dans l'Église. Qui sera prêt à servir parce qu'elle est plutôt dans le pratique, dans le matériel. Alors, évidemment, ensuite on croise tous ces points-là ensemble, n'est-ce pas ? Et c'est là qu'on voit différents tempéraments, mais on ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que l'idéal, ça serait d'être à la fois quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui parle. Voilà, qui sait trouver l'équilibre. Et quelqu'un qui s'intéresse aux personnes et qui s'intéresse aussi aux activités, qui a l'équilibre. Voilà. Mais personne n'est parfait, sauf Jésus. Jésus était parfaitement équilibré, n'est-ce pas ? Et nous, on a toujours un tempérament, un trait qui domine sur le reste. Hein. C'est ainsi. Tempérament a donné tempéré, comme le climat. Vous savez, un climat tempéré, c'est un climat qui n'est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop sec. Voilà, ça c'est formidable, le climat tempéré, hein, n'est-ce pas ? Eh bien, un tempérament, voilà, c'est ça aussi, quelqu'un a un tempérament. On n'est pas toujours équilibré à ce niveau-là, mais ça nous permet de nous connaître. Donc voilà, se connaître un petit peu, savoir comment on est, parce que Dieu tient compte, bien sûr, de notre personnalité pour nous accorder les dons. Alors ensuite, parlez-en avec le pasteur ou avec un responsable d'activité. Voilà, vous avez discerné que peut-être, voilà, vous auriez à cœur d'évangéliser, peut-être le don pour évangéliser. Ben, allez voir Eddie, hein. Comme il a dit. Venez vous voir aussi, hein. Le pasteur est toujours là pour superviser, pour parler de tout ça, avoir un entretien. Après, on y va. Après, en avant. Il faut y aller. Il faut tester. Il faut essayer. Parce que les dons, ça se pratique, ça s'exerce, n'est-ce pas ? On discerne mieux les dons de ceux qui servent. N'est-ce pas ? Les dons, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est en servant qu'on découvre ses dons. Donc, il faut être disponible et bien disposé de cœur. Il faut être spirituel aussi. C'est-à-dire le faire vraiment avec un esprit de service. D'humilité, dire « Seigneur, voilà, je cherche encore, je prie, Seigneur, et je suis prêt à essayer ce qu'on me dit. » Moi, quand j'étais jeune chrétien, mon pasteur m'a dit un jour « Tu vas maintenant démarrer un club d'enfants. » Le samedi, tu vas faire un club d'enfants, tu vas prendre ta voiture, tu vas aller dans les cités, tu vas ramasser les enfants. À l'époque, on pouvait faire ça. Hein. Bon, c'était aujourd'hui, je ne sais pas si on pouvait le faire. On remplissait la voiture d'enfants, hein, puis on faisait. Alors les clubs, on les faisait dans les familles, parfois aussi, on groupait dans une famille. Et je faisais un club d'enfants, voilà, un peu comme l'école du dimanche, voilà, un club d'évangélisation. J'en faisais deux le samedi. Je terminais un club et puis je repartais dans un autre quartier, j'en faisais un deuxième. Mais alors, quand mon pasteur m'a dit ça, ne pensez pas que j'ai accepté de gaieté de cœur. Hein. Franchement, je n'avais pas du tout envie de faire ça. Moi, je voulais bien m'occuper des jeunes. Je l'ai fait aussi, d'ailleurs, groupe de jeunes. Mais alors, les enfants, c'était à reculons que j'ai fait ça. Hein. Mais, voilà, finalement, petit à petit, j'ai pris goût à ça. C'est-à-dire, j'ai découvert que j'aimais cela. J'en ai éprouvé de la joie, j'avais du plaisir, et je pense que j'avais un don pour travailler avec les enfants. Et finalement, j'ai fait ça pendant les deux années de stage dans cette église. Hein. Club d'enfants, groupe de jeunes. Et ça nous amène au point suivant. Il y a trois avis qu'il faut considérer après. Une fois que vous avez commencé à tester un peu les activités, les dons. Vous d'abord, qu'est-ce que vous ressentez quand vous exercez ce ministère ? Est-ce que vous éprouvez de la joie de faire cela ? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous êtes béni? Est-ce que vous aimez faire cela? Ou alors est-ce que pour vous c'est vraiment une corvée? Oh là là, il faut que j'aille évangéliser aujourd'hui. Je me suis engagé pour ça, mais c'est dur, je ne suis pas doué. Voilà. C'est vrai, ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être un autre service dans l'Église, hein, de servir dans un autre domaine, que ce soit pour enseigner les enfants. Voilà, et, voilà. C'est important, voilà. Comment vous vivez cela? Est-ce qu'il y a de la joie? Vraiment, on sent qu'on est épanoui dans ce qu'on fait. Je me souviens toujours d'une personne qui me disait, voilà, dans cette activité que je fais, je m'épanouis. Voilà. Je m'épanouis, c'est-à-dire que, voilà, de plus en plus, je trouve de la joie et je grandis. Donc vous d'abord, mais aussi les autres. Il faut considérer ce que les autres, ils en pensent aussi, ou en tout cas, ceux au prix de qui vous exercez votre don, n'est-ce pas, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des résultats positifs? Est-ce que... voilà, par exemple, vous dites, vous pensez avoir le don d'évangéliser, mais si vous évangélisez et que vous ne voyez jamais de résultats, que vraiment il n'y a jamais de contact, jamais de fruits, jamais de conversion, on peut se poser la question aussi, hein, même si l'évangélisation, ça reste l'œuvre du Seigneur, hein, en dernier recours. Est-ce que vous faites du bien aux autres dans votre service? Est-ce que les autres ils disent « Merci, ça me fait du bien ce que tu partages, ce que tu fais. » Il y a des retours positifs. Et puis finalement, au-delà de ceux auprès de qui vous exercez votre don, il y a aussi l'Église en général, et toute l'Église qui dit, voilà, quelle est la précision de l'Église? Est-ce que l'Église discerne chez vous que vous avez vraiment ce don-là? Est-ce qu'elle le confirme? Est-ce qu'elle l'approuve? Est-ce qu'elle le reconnaît? Aujourd'hui, je pourrais prendre plusieurs personnes qui servent dans l'Église, les amener ici devant, dire, voilà, est-ce que l'Église ici reconnaît que cette personne a le don de ceci ou de cela, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a ce don ou pas? Et voilà, l'Église pourrait dire c'est non. Évident, ou non. C'est-à-dire non, voilà, n'est-ce pas? Quelqu'un qui, voilà, manifestement n'est pas doué pour certaines choses, ça se verrait, quoi. Donc, voilà un petit peu un petit canevas pour discerner ses dons. Et on va voir maintenant comme exemple dans Romains 12, trois dons. J'en ai retenu que trois ce matin. Romains chapitre 12, on a lu tout le passage, il y en a sept. Mais j'en ai retenu trois dans Romains 12, versets 7 Alors 7, 8, on va s'arrêter sur le verset 8 finalement, voilà. Verset 8. Celui qui a le don d'encourager, hein, qu'il s'attache à l'encouragement, on va retenir l'encouragement, la présidence et la bienveillance. D'accord? Et on va commencer avec le dernier, la bienveillance. Pourquoi bienveillance ou miséricorde? Eh bien, parce que ce don, ministère de miséricorde et de bienveillance, consiste surtout à écouter. Hein, la bienveillance, la miséricorde, c'est écouter d'abord. C'est s'asseoir à côté de quelqu'un pour l'écouter. C'est partager la peine de quelqu'un. C'est pleurer avec ceux qui souffrent. C'est compatir. Compatir, ça veut dire souffrir avec. Aujourd'hui, on parle plutôt d'empathie. Hein. Empathie, c'est de finalement se mettre dans la peau de la personne, s'identifier à la personne dans ses problèmes. Voilà, l'empathie. Ça, c'est le don de miséricorde ou de bienveillance. Et dans l'Église, c'est très précieux ce don-là. Ce sont les personnes qui voient les besoins, qui voient les autres personnes qui souffrent, même qui sont pas sauvées, hein. Elles discernent vraiment les besoins, et puis voilà, elles vont s'asseoir à côté, elles vont parler, elles vont prendre du temps. Verset 15, regardez le verset 15, toujours même chapitre. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est ça la bienveillance, c'est ça la miséricorde. Alors certains, ils n'ont pas du tout ce don-là. Alors, ils sont... je veux bien faire le ménage, je veux bien aller faire autre chose, voilà, faire des travaux, mais c'est pas leur don d'aller avec quelqu'un pour l'écouter. Ça demande de la patience, ça demande d'être prêt à pleurer avec... Bon, ben, on est tous différents, il faut de tout dans l'Église, voilà, on se complète. Mais voilà, c'est important ce ministère-là, parce qu'il faut que certains le fassent. Il faut que certains soient prêts à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui souffrent et qui pleurent. Et donc, cette personne, elle peut faire ça. Elle fait ça avec joie, justement, c'est ça. Elle fait ça avec joie. Elle aime ça. Elle aime les personnes. C'est évident qu'elle doit avoir un bon relationnel. Hein. Elle aime les personnes. C'est pas donné à tous, hein, c'est sûr, parce que ça demande une dose de patience particulière. Il faut beaucoup de temps, parfois, pour écouter quelqu'un, pour l'aider. Verset 13 aussi. Regardez verset 13. Un exemple. Verset 13, il est dit « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » La bienveillance, c'est peut-être aussi aller jusqu'à pratiquer l'hospitalité. Voilà. L'hospitalité, ce n'est pas forcément de loger quelqu'un chez soi, ça peut être d'accueillir juste pour prendre un café, prendre du temps, voilà, prendre un moment. Hein. Il y avait dans la Bible un couple qui pratiquait cela, c'était Aquilas et Priscille. Voilà. Ils voyaient les besoins, ils exerçaient l'hospitalité. Dans Actes 18, verset 26, on voit que ils ont discerné chez quelqu'un un besoin. Acte 18, 26, il s'agit de Apollos. On va revenir peut-être le verset avant pour comprendre le contexte. Verset 24, mais voilà, oui. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur et plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, c'est important, vous voyez, d'abord on écoute. On écoute d'abord, c'est ça. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Voilà. Donc ils l'ont écouté enseigner, prêcher. Et après il lui dit, Apollos, viens manger à la maison, on t'invite. Hein, ça me ferait plaisir de passer du temps avec toi. Donc ils l'ont invité à la maison. Ils ont parlé, ils ont encore écouté sûrement. Et après, ils lui ont enseigné, exposé plus exactement la voix du Seigneur. Ils l'ont enseigné, on va voir que c'est le point suivant. Ils l'ont exhorté, ils l'ont encouragé. Vous savez, quand on écoute quelqu'un, on discerne mieux l'état spirituel de la personne. Hein? Souvent, quand on est pressé, on zappe cette partie-là qui est très importante pour savoir où en est la personne spirituellement. Est-elle sauvée ou pas? Est-elle... spirituel ou pas, voilà, il faut du temps, il faut écouter son parcours, son témoignage. On fait ça beaucoup actuellement, hein, avec Ruth en particulier, dans les entretiens et les visites. Alors évidemment, ça demande certaines qualités, d'abord de savoir garder les confidences, c'est sûr, parce que les personnes s'ouvrent à vous, elles vous font confiance, elles partagent choses intimes, personnelles, donc il faut le garder pour nous dans la prière, hein, le remettre au Seigneur. Et puis, il ne faut pas non plus se laisser manger par les personnes. Parce que si c'est vrai dans l'évangélisation, c'est vrai aussi dans l'Église. Hein, je veux dire. Parfois, il y a des personnes qui, en fait, ce qu'elles veulent, c'est juste qu'on les écoute. Elles veulent juste t'écouter, voilà, et parler, raconter leur vie, etc. Mais elles n'ont pas envie de changer. Souvent, elles n'ont pas forcément le désir de changer. Elles veulent juste une écoute, une attention, qu'on s'occupe d'elles. Et on a tous connu des personnes comme ça qui, dans le ministère, nous, on a connu ça, mon épouse en particulier, qui est très relationnelle. Parfois, elle se faisait manger par quelqu'un, c'est-à-dire qu'il prenait tout son temps, qu'il accaparait, mais cette personne n'avait aucune intention de se convertir ou de marcher avec le Seigneur. Elle voulait juste de l'amitié, de la compagnie. Alors bon, jusqu'à un certain point, il faut, mais à un moment donné, il faut avoir le discernement de dire, bon, écoute, quand tu veux obéir à la parole de Dieu, quand tu voudras marcher avec le Seigneur, on reprendra. Mais pour le moment, on fait une pause, on s'arrête. Voilà. Il faut vraiment avoir le discernement là aussi. Deuxième don, on revient, on a vu donc la bienveillance, la miséricorde. Maintenant, c'est plutôt le moment de parler aussi, même si on l'a déjà fait là. Hein. On va revenir donc à ce verset dans Romains 12, verset 8, et qui nous dit « Celui qui a le don d'encourager, qui s'attache à l'encouragement, ou l'exhortation. » Cette fois-ci, ça consiste à parler, évidemment. On encourage par des paroles, à conseiller avec la Bible. Donc ça demande quoi ? Ça demande une très bonne connaissance de la Bible. Vous ne pouvez pas être un conseiller spirituel si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas, en train de faire de la psychologie ou de la thérapie, je ne sais. On est en train de faire un travail spirituel, une relation d'aide, une cure d'âme, comme on le disait dans le temps, n'est-ce pas ? Et donc pour ça, on doit utiliser les bons outils, les bons instruments, c'est la parole de Dieu. Donc il faut la connaître. Alors, évidemment, on ne connaît jamais parfaitement la Bible, mais au moins de connaître des textes clés importants pour aider quelqu'un sur le plan du salut, sur le plan spirituel, pour grandir, n'est-ce pas ? Et là, il y avait un homme qui était très utile et très précieux à ce niveau-là, il s'appelait Barnabas. Barnabas, dans Actes, chapitre 11, versets 22 à 26, c'est un bel exemple de quelqu'un qui exhortait, qui encourageait. Alors, 11, 22 à 26. Donc, l'évangile se répand et la nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait, donc un homme qui encourage. Ils encourageaient tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Donc c'est important d'être spirituel, d'être rempli du Saint-Esprit, on l'a vu tout à l'heure, rempli de foi. On croit que Dieu peut changer quelqu'un. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Très important cet épisode, c'est que non seulement il va encourager les chrétiens d'Antioche, mais il va encourager Saul. Il va être l'instrument de Dieu pour aller chercher Saul, qui est un peu retiré à l'écart. Hein. Les chrétiens n'en veulent pas trop de Saul, parce que non, c'est un persécuteur hein, de réputation. Lui, il va le prendre à part. Il va l'encourager, il va lui parler, hein, il va le réconforter et il va certainement contribuer à faire de Saul l'apôtre Paul, hein, en grande partie. Très important, vous voyez, vous ne savez pas le fruit qui va résulter de votre travail auprès d'une personne, hein, que ce soit sur le salut, pour le faire grandir spirituellement. Hein. C'est très très important. Donc, quelqu'un qui exhorte, qui encourage, c'est quelqu'un qui prie avec, qui prie beaucoup avec la personne et qui prie beaucoup pour la personne. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui voient les besoins des autres et qui cherchent à encourager à une vie droite, à une vie obéissante aux Écritures. Parce que souvent, quand les chrétiens souffrent, pas toujours, c'est parce qu'il y a une lacune dans leur vie spirituelle. Il y a un manquement d'obéissance à la parole de Dieu, peut-être, ou de connaissance de la parole de Dieu. Son désir, c'est de voir grandir cette personne spirituellement. Ça, c'est son désir. Et c'est intéressant parce que Barnabas, si on revient à ce personnage, vous savez ce que ça veut dire, Barnabas ? Bar, fils de, le fils d'exhortation, le fils d'encouragement. Voilà. C'était quelqu'un qui était... Alors, il avait un autre prénom. Vous allez le retrouver, je ne le trouve pas maintenant, mais il avait un autre prénom. Et on lui a donné ce nom-là aussi parce que justement, voilà, tout le monde... Toute l'Église disait, c'est évident que lui, il a un don d'encourager les autres. Voilà. D'encourager. Vous encouragez les autres quand vous priez au culte, n'est-ce pas ? À haute voix, priez davantage. Trop peu de chrétiens osent prier à haute voix. Et ça encourage de prier, ça édifie. Vous encouragez les autres quand vous partagez ce que vous vivez dans votre vie spirituelle. Allez, troisième don, on revient à Romains 12, verset 8. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Présider. diriger. Il ne s'agit pas ici seulement de présider le culte, même si ça en fait partie. Mais il s'agit de diriger une réunion, par exemple. Et ça veut dire, une réunion, ça peut être une étude biblique, mais ça peut être aussi l'école du dimanche. Ça demande de la direction, hein. Et si vous n'avez jamais fait l'expérience d'enseigner les enfants, allez faire un tour le dimanche matin à l'école du dimanche ou un samedi quand il y a l'évangélisation. Vous verrez le travail que ça représente. Il faut savoir présider, il faut savoir diriger, n'est-ce pas? Ça peut être la louange aussi. Il faut diriger la louange. Et les sœurs, là, quand elles font la louange, moi, je les regarde parce que parfois, je ne connais pas les cantiques. Donc, je regarde leurs lèvres, comment elles chantent, le rythme. Elles dirigent, elles conduisent à la louange, n'est-ce pas? C'est vrai aussi, certainement, avec les musiciens. Quand on est responsable d'une activité de l'Église, on préside, on dirige quelque chose. Hein. Eh oui, quand même. Donc là, on a mis en place un organigramme. Vous le verrez à la sortie, c'est affiché. Hein. On le mettra peut-être dans le bulletin aussi, hein, avec les responsables par poste. Adressez-vous à eux en cas de besoin, de questions. Hein. Moi, je l'ai délégué la plupart des responsabilités en vue de mon départ. Donc voilà, il y a des personnes qui vont présider à l'évangélisation, qui vont diriger l'enseignement des enfants ou l'organisation de différentes activités. Et donc là, le point important, c'est qu'il est dit quand vous présider, vous devez le faire avec zèle. Hein? Avec zèle. C'est-à-dire avec enthousiasme. Avec enthousiasme. Quand vous chantez, il faut de l'enthousiasme. Quand vous faites l'école du dimanche, il faut de l'enthousiasme aussi. Hein? Il faut être motivé pour faire l'école du dimanche, vous savez. Parce que les enfants, ils vous attendent. Hein? Pour faire la déco de l'église, il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer, il faut le faire avec zèle, faire bien. Quand on décore aussi pour le Bible Aventure pour les enfants, c'est du travail aussi. Une étude, ça se prépare. Ça se prépare une étude. Donc il faut aussi du zèle pour cela. Regardez verset 11 dans Romains 12. Verset 11, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Voilà, donc le contraire du zèle, c'est la paresse. Et la paresse, par exemple, c'est ne pas préparer une présidence. Et on dit « Voilà, je préside dimanche, mais bon, je viens les mains dans les poches. Le Seigneur me conduira. » Ah non, il faut préparer ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est vrai pour tout, il faut se préparer. Mais il faut être zélé pour le Seigneur. Le zèle. Fervent, de la ferveur. Pas la paresse. Parce qu'il est dit, c'est le Seigneur que vous servez. On a dit tout à l'heure, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Alors c'est vrai que vous servez les autres, vous servez l'Église. Mais n'oubliez pas que d'abord vous servez le Seigneur. C'est le Seigneur que vous servez. Est-ce que je suis zélé pour Christ? Hein? Est-ce que je suis zélé? J'aime bien ce texte, on va le lire dans une autre version, second 1910, s'il te plaît, 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 7 et 8. Parce que la traduction est un peu plus forte là que... Alors, 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 7 et 8. De même que vous excellez en toute chose. J'aime bien cette traduction. Vous excellez. Dieu, ce qu'il veut, c'est l'excellence. Vous avez des dons, vous devez les pratiquer avec excellence. Mais la barre est haute. Hein? Voilà. Il veut qu'on soit excellent. De même que vous excellez en toute chose, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Il s'agit là d'un don financier, matériel, hein, pour les chrétiens. On l'a évoqué tout à l'heure pour l'offrande. Eh bien voilà, il veut que là aussi, il soit excellent. Voilà. En abondance, dit second 21. Voilà. Excellence. Est-ce que je suis excellent? Voilà. pour le Seigneur. Et puis lisons notre texte, 1 Corinthiens 15, 58, pour terminer. Ainsi, mes bien-aimés, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Un don, ça se travaille. Demandez à Samuel s'il ne doit pas travailler son violon. Hein. Ça se travaille, hein, n'est-ce pas? Ça s'entretient, hein. Il faut le pratiquer. C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans tous les domaines. Il faut entretenir, hein. il faut travailler de mieux en mieux. Certains se contentent de travailler. Voilà. Juste le minimum, quoi. Hein. Être moyen. Eh bien non, sur le plan spirituel, Dieu souhaite l'excellence. L'excellence, de mieux en mieux. Toujours progresser, toujours améliorer. Voilà. C'est ce que Dieu veut pour nous. Que Dieu nous aide à chercher, à connaître nos dons. Il ne va pas vous les cacher, il veut les révéler, afin que nous puissions le servir dans l'Église et que tout cela soit fait pour sa gloire. Seigneur, nous voulons te remercier maintenant parce que tu nous as accordé le don du Saint-Esprit, Seigneur, quand nous sommes venus à toi. Et merci parce que le Saint-Esprit n'est pas venu, comme j'ai dit, les mains vides, mais il est venu avec l'abondance, Seigneur. Il veut que nous portions le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais il veut aussi que nous utilisions les dons que tu nous as accordés, Seigneur. Merci de cette vérité précieuse. Et je te demande que chacun prenne à cœur de se placer devant toi, aujourd'hui, cette semaine, pour vraiment connaître ces dons, Seigneur, afin de te servir au mieux dans cette Église, Seigneur, pour l'avancement de ton règne et que ton œuvre s'approfondisse dans les vies. Sauve, Seigneur, encore ce matin, consacre à toi, Seigneur, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà, si quelqu'un voulait parler de...